Torahbox.com pour la diffusion du judaïsme aux francophones vous retransmet un cours de Talmud, traité Sanhedrin, page 2, Daf Bet. Bonne écoute et bon limoud.
Le traité de Sanhedrin est le traité qui suit les trois Masertot, les trois traités Baba Kama, Baba Metzia et Baba Batra. Dans les trois traités précédents, l'Agmara, les Mishnayot et l'Agmara nous ont expliqué en long et en large toutes les lois ayant trait aux questions financières qui peuvent se réveiller entre deux personnes, que ce soit des dommages, que ce soit des prêts, que ce soit de la garde, etc., comme cela a été expliqué dans les Masertot précédents. Après avoir expliqué toutes ces lois, la Gemara maintenant passe au quatrième traité, qui est le traité de Sanhedrin. Sanhedrin, c'est après avoir expliqué les lois, nous allons traiter maintenant des juges qui sont aptes à juger ces lois. Et donc, c'est ce que ce traité va donc nous expliquer. Toutes les lois concernant les tribunaux, les juges, les témoins, qui peut être jugé, qui ne peut pas être jugé, quelles sont les punitions à infliger, etc. Et donc, il faut savoir qu'il y a un commandement positif de nommer des tribunaux en Eretz Israël. Or, il existe trois sortes différentes de tribunaux. Le tribunal de 3 personnes, le tribunal de 23 personnes, et la Cour suprême, qui est appelée Sanhedrin, de 71 personnes. Le terme Sanhedrin est expliqué par les commentateurs, est de provenance grecque. Et cela signifiait l'assemblée des anciens du peuple. Et donc, pour revenir maintenant aux trois sortes de tribunaux, il faut savoir que chaque tribunal a des pouvoirs différents. C'est sûr qu'un tribunal de 3 personnes n'a pas les mêmes pouvoirs que le tribunal de 71 personnes. Et donc maintenant, c'est ce que le premier chapitre de ce traité va nous expliquer. Quels sont les pouvoirs des tribunaux de 3 personnes et quels sont les pouvoirs des tribunaux de 23 et des tribunaux de 71. Et quelle loi et quel jugement devra être amené devant tel ou tel tribunal. Et en fait, l'on pourrait dire qu'en règle générale, les questions financières peuvent être traitées devant un tribunal de 3 personnes. Les questions ayant trait à des punitions de peine de mort devront être traitées devant un tribunal de 23 personnes. Et des questions très particulières, elles, seront traitées devant le tribunal de 71 personnes, le Sanhedrin. Il faut aussi préciser que ce Sanhedrin, cette Cour suprême, il n'existait qu'une seule sorte de tel tribunal. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas plusieurs tribunaux de 71 personnes, comme il y en a plusieurs de 3 ou de 23, mais il en existait un seul, et ce tribunal siégeait à une des portes du temple à Jérusalem. Et ça, c'était la cour suprême. Et donc, c'est ce que la première Mishnah de ce traité va nous expliquer. Et nous sommes Davbet Amud Aleph, et nous commençons la première Mishnah. La Mishnah nous dit Dine mamonot bishlosha. Les questions financières seront traitées devant un tribunal de 3 personnes. Gzelot vachavalot, les vols et les plaies qu'un homme a infligées à son ami, bishlosha, seront traités devant un tribunal de 3 personnes. Nezek vechati nezek, les dommages qu'un homme a causé à son ami, ou alors chati nezek, dans le cas où un taureau a encorné pour la première, la seconde ou la troisième fois, ce taureau est appelé tam, c'est-à-dire qu'il n'a pas encore pris l'habitude d'encorner. Alors la loi est qu'il ne paye pas le dommage complet, mais la moitié du dommage qu'il a causé. Donc lorsque on aura une demande de mi-dommage, ou alors tashlume kefel, dans le cas où un homme demande à se faire payer le double de ce qu'on lui a volé, car ainsi est la loi du voleur, lorsqu'un voleur se fait attraper, il devra payer le double de ce qu'il a volé. Ve tashlume arba vechamisha, et si ce voleur a volé une bête de menu bétail et qu'il l'a vendue ou qu'il a abattu, il devra payer 4 fois la valeur de cette bête. Et si c'est une bête de gros bétail, il devra payer 5 fois la valeur de cette bête. Alors, toutes ces questions-là, bishlosha, seront traitées devant un tribunal de 3 personnes. Haones ve'amefate ve'amoti shemra, celui qui viole une jeune fille et qui est amené devant un tribunal, et celui qui séduit une jeune fille et qui est amené devant un tribunal, et celui qui sort une mauvaise rumeur sur sa femme, c'est-à-dire que le lendemain du mariage, il se tient devant le tribunal en disant qu'il n'a pas trouvé cette femme étant vierge, donc ça veut dire obligatoirement qu'elle a eu des relations avec un autre homme avant son mariage, et donc il demande le divorce sans avoir besoin de lui payer la ketouva. Toutes ces questions-là seront traitées devant trois personnes. Divrei Rabbi Meir sont là les paroles de Rabbi Meir. Vechachamim omrim, et les sages disent, motzi shemra, le cas de quelqu'un qui fait sortir une mauvaise rumeur sur sa femme, be'esrim ve'shlosha, lui est traité devant 23 personnes. Car s'il s'avère que ce qu'il dit n'est pas vrai et que ce n'est que une mauvaise rumeur, alors il aura la peine infligée dans la Torah, c'est-à-dire une peine de flagellation, ainsi accompagnée d'une amende. Mais s'il s'avère que ce qu'il dit est vrai, alors mipnei she'esh bo dinei nefashot, car ça le peut arriver à une peine de mort s'il arrive à prouver que sa femme a eu des relations avec un autre homme avant de se marier lorsqu'elle était durant la période des fiançailles, elle est passible d'une peine de mort. Et donc, étant donné que ce jugement peut en arriver à une peine de mort, il ne sera pas suffisant de le traiter devant trois personnes, mais seulement devant 23 personnes. Makot, une peine de flagellation, Bishlosha sera traitée devant trois personnes. Mishum Rabbi Shmuel Amru, au nom de Rabbi Shmuel, ils ont dit, Be'esrim Bishlosha, devant un tribunal de 23 juges. Ibur Achodesh, de fixer la date du premier du mois. Bishlosha, ce sera traité avec trois juges. Ibur Ashana, de fixer qu'une année sera bissextile, c'est-à-dire qu'il y aura deux mois de Hadar. Bishlosha sera fixé par trois juges. Divrei Rabbi Meir, ce sont là les paroles de Rabbi Meir. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Rabban Shimon ben Gamliel dit, Bishlosha Matrilin, on commencera à traiter du sujet avec trois juges. Bechamisha Nosim Benotnim, on traitera du sujet avec cinq juges. Vegomrim Beshivra, et la décision sera rendue par sept juges. Veim Gamru Beshlosha, mais s'ils ont rendu la décision avec trois juges, mais au Beret, cette année est décrétée comme étant bissextile. Smichat Zkenim, si un tribunal a enseigné une loi quelconque et qu'il s'avère qu'ils se sont trompés et que la majorité du peuple a écouté l'enseignement de ce tribunal et a donc fait une avéra et a transgressé un commandement sans faire exprès car ils ont écouté le tribunal et que le tribunal s'est trompé donc lui aussi a donné cet enseignement sans faire exprès, alors le tribunal devra amener ce qui s'appelle par elem davar, un sacrifice expiatoire pour expier cette faute d'un enseignement faux qu'ils ont donné sans faire exprès. Et donc, lorsqu'on amènera ce sacrifice, il faut que les juges du tribunal s'appuient de toute leur force sur la tête du sacrifice. Et donc, la Mishnah nous dit qu'il est suffisant que trois des juges du tribunal s'appuient de toute leur force sur la tête du sacrifice. Il n'y a pas besoin que tout le tribunal vienne s'appuyer sur le sacrifice. Et de même, Ve'arifat Egla, et la jeune jeunisse à laquelle on casse la nuque, lorsque un corps a été découvert entre deux villes, et que l'on ne retrouve pas l'assassin de ce corps, alors la ville la plus proche devra amener ce qui est appelé Egla Arufa, une jeune jeunisse à laquelle on devra casser la nuque. Il y a des lois très spéciales, et c'est le tribunal de la ville la plus proche du corps qui amènera cette jeune génisse, et donc il est suffisant, Bishlosha, de le faire avec trois juges. Divrei Rabbi Shimon sont la parole de Rabbi Shimon. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda dit, Bechamisha, il faut cinq juges. Hachalitza, le procédé de Chalitza, c'est-à-dire lorsque un homme décède sans avoir d'enfant, alors d'après la Torah, il y a une obligation pour le frère de cet homme de se marier avec la femme du décédé. Maintenant, si le frère ne veut pas se marier avec la femme du décédé, ne veut pas procéder au yiboum, alors à ce moment-là, on se procédera à la chalita, procédé qui permet de délier tout lien entre le frère du décédé et la femme de celui-ci. Et donc, ce procédé vers mihounim est le procédé de mihounim, c'est-à-dire lorsque une jeune fille de moins de 12 ans perd son père. Et donc maintenant, d'après la Torah, elle n'a plus la possibilité de se marier seulement après être arrivée à l'âge de 12 ans et demi, c'est-à-dire Bogeret, une grande fille. Car c'est vrai que si son père avait été encore vivant Alors son père aurait pu la marier, mais maintenant que son père n'est plus vivant, tant qu'elle n'est pas grande, alors à ce moment-là, elle n'a pas la possibilité de se marier. Mais les sages ont décrété que Midérabanan, sur ordre rabbinique, sa mère et ses frères ont la possibilité de se marier, de la marier. Mais si cette jeune fille arrive à l'âge de 12 ans et décide que son mari ne lui plaît pas, elle peut procéder au mioun, c'est-à-dire refuser ce mariage qui lui a été fait par sa mère et ses frères. Et donc ça s'appelle le mioun, refuser le mariage. Bishlosha, ça suffit de le faire devant 3 personnes. De même, Neta Revaï, évaluer la valeur de la récolte de la 4e année. La récolte de la 4e année d'un arbre, après sa plantation, est sainte et doit être mangée à Jérusalem. Mais on a la possibilité de racheter cette récolte, c'est-à-dire de faire passer la sainteté de cette récolte sur de l'argent, et avec l'argent, lorsqu'on ira à Jérusalem, on achètera de la nourriture qu'on mangera à Jérusalem. Et de même, Maaser Sheni, la seconde dîme, qui elle aussi doit être mangée à Jérusalem. Mais on a la possibilité de le racheter, comme la récolte de la 4e année après la plantation d'un arbre. Alors dans ces deux cas-là, le cas de Neta Revaï, la récolte de la 4e année, et le cas de la seconde dîme, chez Endama Viedouim, si on ne sait pas la valeur de ces fruits, par exemple, nous dit Rashi, si ces fruits ont pourri, et donc elles n'ont pas un prix, par exemple, en général, on sait, 1 kilo de pomme, ça coûte tant et tant, 1 kilo de poire, ça coûte tant et tant, il suffit d'aller au marché et de voir le prix. Donc 1 kilo de pomme, ça coûte tant et tant, fois tant et tant de kilos, et on sait exactement le prix. Ici, nous parlons d'un cas où ces fruits ont pourri, et donc n'ont pas de prix, et il faut évaluer leur valeur. Alors comment on peut évaluer leur valeur? Bishlosha, avec 3 juges. Haïk Deshot, et de même, lorsqu'on veut racheter quelque chose qui a été sanctifié au temple, Bishlosha, cela devra être fait avec 3 personnes. Harachim, Ha Metaltelim, quelqu'un qui a sanctifié la valeur d'un objet mobilier. Alors, pour évaluer la valeur de cet objet, Bishlosha, ça devrait être fait avec 3 personnes. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda dit, Echad Mehem Kohen. Une de ces 3 personnes doit être un prêtre. Vakarkot, et si on vient évaluer la valeur d'un terrain, quelqu'un qui par exemple a sanctifié la valeur d'un terrain et qui a dit, je vais payer au temple la valeur de ce tel et tel terrain, pour évaluer la valeur de ce terrain, Tish'a Vekohen. Il faudra 9 personnes plus un Kohen. Ve'adam est quelqu'un qui a sanctifié la valeur d'un homme. Kayotse Bahem, il en est de même, c'est-à-dire que pour évaluer la valeur de cet homme, il faudra 9 personnes et un Kohen. Ça, c'est tout ce qui est traité devant 3 juges. Maintenant, Dine Nevashot, toutes les jugements qui ont trait à des peines de mort, Besrim Veshosha, seront jugés devant 23 juges. Harovea ve'anirba, Besrim Veshlosha. Lorsque maintenant on vient juger une bête qui a eu une cohabitation sexuelle avec un homme ou avec une femme, cette bête sera jugée devant 23 juges. Chez Nehema, comme il est dit, à propos d'une femme ayant eu une cohabitation sexuelle avec une bête, ve'arakta et aisha ve'ta behema. Et tu tueras la femme ainsi que la bête. Ve'omer, et il est dit, ve'ta behema ta'orogu. Et la bête vous tuerez. Et donc, de cette juxtaposition entre la femme et la bête, nous apprenons que de même que pour appliquer une peine de mort à la femme, il faut qu'il y ait un tribunal de 23 juges, il en sera de même pour la bête. Pour appliquer cette peine de mort à cette bête qui a une cohabitation sexuelle avec un homme ou une femme, il faudra un tribunal de 23 juges. De même, Shor Aniskal, le taureau qui est lapidé, dans le cas où un taureau a tué un homme, la loi est que ce taureau doit être lapidé. Alors, le jugement devra être rendu par un tribunal de Be'esrim Vishlosha de 23 juges. Chez Nehema, comme il est dit, Hashor Yisakel, le taureau sera lapidé, Vegam Ba'alav Yumat, et même ses propriétaires seront tués. Et de Rashi nous explique que c'est sûr que nous ne voulons pas dire que les propriétaires seront tués, mais ça vient nous apprendre que Kemitat Ba'alim, de même qu'il faut 23 juges si on veut appliquer une peine de mort au propriétaire de ce taureau, car mitat hashor, il en est de même si on veut donner une peine de mort à ce taureau, il faudra 23 juges. Hazeev ve'hari, hadov ve'hanamer ve'abardelas ve'anachash. Hazev, le loup. Vehari est le lion. Hadov est l'ours. Vehanamer, le tigre. Verbardelas est la panthère. Vehanachash est le serpent qui ont tué quelqu'un. Alors, il faudra les tuer. Et donc, pour rendre une peine de mort contre ces bêtes-là, mitatan, be'esrin, ve'shosha. Pour rendre une peine de mort, il faudra un tribunal de 23 juges. Rabbi Eliezer dit, kol akodem l'organ zacha. Quiconque est le premier à les tuer, gagne le mérite de les avoir tués. Car ce sont des bêtes dangereuses, et il ne faut pas les laisser en circulation. Au contraire, il faut les tuer, même s'il n'y a pas de tribunal. Rabbi Akiva dit, mitatan, be'esrin, ve'shosha. Une peine de mort contre ces bêtes-là sera rendue par un tribunal de 23 juges. La Misha continue nous dit, en danin, lo et hachevet, velo et navi hacheker, velo et kohen gadol, el alpi beddin shel 71. Maintenant, nous parlons des jugements qui sont rendus par la Cour suprême du tribunal de 71 juges. Alors, la première loi nous dit qu'on ne jugera pas une tribu. Si par exemple, la majorité d'une tribu s'est adonnée à l'idolâtrie. Et de même, on ne jugera pas un avishéker, un faux prophète. Et de même, le grand prêtre, on ne les jugera pas seulement devant la Cour suprême de 71 juges. Ve'en motzin la milchamet arishut el alpi bedin shel 71. Et on ne sortira en guerre facultative. Et Rashi nous dit, qu'est-ce qu'une guerre facultative? C'est toute guerre, à part la guerre qu'a menée Yehoshua lorsqu'il a conquis la terre d'Israël. Donc on n'aura pas le droit de sortir en guerre facultative, seulement par ordre du tribunal de 71 juges. En osin sanedreyot les shvatim el alpi bedin shel 71. Et on n'aura pas le droit de nommer de tribunaux de 23 juges chez les tribus, dans toutes les autres tribus, seulement sur ordre du tribunal de 71 juges. En osin iranidachat el alpi bedin shel 71. On aura le droit de donner une peine de Ir Anidachat. Ir Anidachat, c'est dans le cas où la majorité d'une ville s'est adonnée à l'idolâtrie. Alors à ce moment-là, la loi est que l'on devra tuer tous les gens de cette ville, et la ville elle-même devra être détruite et n'aura plus le droit d'être reconstruite. Et donc, un tel jugement ne pourrait être donné que par le tribunal de 71 juges. Et la Gemara, étant donné que nous avons parlé de ce sujet de Ir Anidachat, la Gemara rapporte maintenant encore une ou deux lois à ce sujet-là. En osin Ir Anidachat basefar, on ne aura pas le droit de rendre un jugement sur une ville et la considérer comme étant Ir Anidachat, une ville que l'on n'a plus le droit de reconstruire, lorsque c'est une ville frontalière. Et nous allons voir dans la Gemara la raison de cette loi. Et de même, Velo Shalosh, on n'aura pas le droit de faire trois villes qui sont proches l'une de l'autre. Le même tribunal n'aura pas le droit de rendre ces villes comme étant Ir Anidachat, villes qui doivent être détruites, lorsqu'il y en a trois qui sont proches l'une de l'autre. Aval aussi nachat oshtaim, mais on aura le droit de faire une ou deux. Sanhedrin gdola aita shel 71. Le grand tribunal était de 71 juges. Vektana shel 23. Et le petit tribunal de 23. Minay legdola shi shel 71. D'où je sais que le grand tribunal était de 71 juges. Chez Nehemar, comme il est dit, Esfali shivim ish mizikne Israël. Rassemble-moi 70 hommes des anciens d'Israël. Ou Moshe al Gabéen, et c'est Moshe qui les dirigeait. Donc nous voyons que lorsque Akadosh Baruch Hu a demandé à Moshe Rabbeinu de rassembler une cour, c'était 70 personnes, plus Moshe. Rabbi Houda nous dit, Shiv'im, qu'ils étaient que 70, et non pas 71. Et d'où je sais que le plus petit tribunal, le tribunal en dessous donc, était de 23. Le plus petit était de 3. Mais le tribunal en dessous des 71 était de 23. Chez Nehemar, comme il est dit, Veshaftu Aeda, Veitzilu Aeda. Et l'assemblée jugera, et l'assemblée le sauvera. C'est-à-dire qu'il y a une loi d'essayer de ne pas donner une peine de mort à quelqu'un qui est accusé. Donc il y a une loi d'essayer de sauver l'accusé de la peine de mort. Or, de là, nous apprenons qu'il y a deux choses. Il y a premièrement, Eda Shofetet, l'assemblée qui juge et qui tend à rendre la peine de mort, Veda Matseret est l'assemblée qui essaie de sauver. C'est-à-dire que dans un tribunal, il voit qu'il y a au moins deux assemblées. Arekan et mais donc nous avons ici déjà au moins 20 personnes. Car une assemblée, c'est 10 personnes. Uminaï leda shei asara. Et d'où je sais qu'une assemblée, c'est au moins 10 personnes. Chez Nehemar, comme il est dit, admatai laeda ara azot. Jusqu'à quand tolérerai-je cette communauté perverse, cette assemblée perverse? Et donc, or, ce verset a été dit par Akadosh Baruch Hu à Moshe Rabbeinu sur les chefs de tribus qui ont rapporté la médisance de la terre d'Israël. Or, il y avait 12 chefs de tribus, Yatsu, Yehoshua et Caleb. Or, on exclut de ces 12 Yehoshua et Caleb qui n'ont pas rapporté de médisance. Et donc, 12 moins Yehoshua et Caleb, c'est 10. Donc, de là, j'apprends qu'une Aïda, une assemblée, c'est 10 personnes. Donc, déjà, nous avons deux assemblées, ça fait déjà 20 personnes. Mina, il avait autre chose. D'où je sais maintenant que je dois rajouter sur ces 20 encore 3 personnes. En mimashma, chez Nehemar, étant donné de ce qui est sous-entendu par ce qui est dit par le verset. Lo tiye achare rabim le raot. Tu ne suivras pas la majorité pour faire du mal. Shomeani, shiye imaim le tova. Alors, ça sous-entend que pour faire le bien, je suivrai, oui, la majorité. Alors, si c'est ainsi, pourquoi est-il écrit dans la fin de ce verset, tu suivras la majorité? De là, j'apprends, lo ke atayatra le tova, atayatra le ra. Que l'on ne suit pas la majorité pour faire le bien, de même que l'on suit la majorité pour faire le mal. C'est-à-dire, que ce qui est dit dans le verset, Lotie achare rabim le raot, tu ne suivras pas la majorité pour faire le mal, ça ne veut pas dire que je ne la suivrai jamais. Ça veut dire qu'il y a certains cas où il y a une majorité pour faire le mal, mais malgré tout, je ne suivrai pas cette majorité. Comment cela? Alpi atayatra le tova alpi echad. Lorsque le tribunal vient rendre un jugement et que ce jugement est pour du bon côté, alors même s'il y a une majorité de une personne, je suivrai la majorité. Par contre, atayatra le ra'a al-bishnaim, pour rendre un mauvais jugement bien sûr entre guillemets, c'est-à-dire une peine ou rendre quelqu'un passible de punition, alors il faut qu'il y ait au moins une majorité de deux personnes. Mais s'il n'y a une majorité que d'une personne, alors sur cela, le verset nous a dit, lot yachirabim le ra'ot, tu ne suivras pas la majorité pour faire le mal. Et donc, en fait, pour rendre une mauvaise peine, une punition en quelque sorte, il faut qu'il y ait au moins une majorité de deux personnes. Et donc, nous avons déjà donc ici, deux assemblées, c'est 20 personnes, plus, il faut qu'il y ait une majorité de deux personnes, donc il faut rajouter encore deux personnes pour qu'il y ait au moins une majorité de deux personnes, à part l'assemblée qui décide du bon côté, il faut qu'il y ait encore deux personnes pour décider le mauvais côté, c'est-à-dire 12 contre 10, pour qu'il y ait au moins deux personnes en plus.
Vous êtes en plein cours de Guémara avec Torah Box. Et n'oubliez pas, chaque mot d'étude équivaut à accomplir les 613 mitzvot.
Et nous passons à la page suivante, Dav Bet Amud Bet, Ve'en Bedin Shakul. Or, il y a une loi qui nous dit que l'on n'a pas le droit de prendre un nombre pair de juges pour, en tant que tribunal, car on craint qu'il y ait une dispute entre eux et qu'ils en arrivent à moitié-moitié. Par exemple, on se décide comme ça et on se décide comme ça. Et alors à ce moment-là, le sujet ne pourra pas être décidé. Donc, Mosifim Aleim Odechad, on rajoutera sur ces 22 encore un autre et on arrive à 23. Rekan Esrim Veshlocha, nous avons donc ici 23 personnes. Vekamaye Bahir Veter Uyal Sendrin. Et combien de personnes doit-il y avoir dans la ville pour qu'elle soit apte à recevoir un tribunal? Mais à Vesrim, il faut qu'il y ait au moins 120 personnes. Rabbi Nechemia Omer, Rabbi Nechemia dit, Matayim Ushloshim, il faut qu'il y ait au moins 230 personnes, Keneged Sare Asarot, comme les princes des dizaines. C'est-à-dire qu'à l'époque de Moshe Rabbeinu, il y avait un prince, un juge en quelque sorte, sur chaque 10 personnes, et après cela, il y avait un juge pour chaque 100, un juge pour chaque 1000, etc. Et donc, de nos jours, de même qu'à l'époque de Moshe Rabbeinu, il y avait un juge pour chaque 10 personnes, pour qu'une ville soit apte à recevoir un tribunal de 23 juges, il faut qu'il y ait au moins 230 personnes dans cette ville. La Gemara revient maintenant sur la première phrase de la Mishnah. Nous avons appris dans cette première partie de la Mishnah, les questions financières seront traitées devant un tribunal de 3 juges. les vols et les plaies devant un tribunal de 3 juges. Alors la Gemara demande à tout zelot vechavalot l'avdine mamunot ninu. Est-ce que les vols et les plaies ne sont pas des questions financières? C'est sûr que c'est des questions financières quand quelqu'un vient dire au tribunal lui m'a volé tant et tant et qu'il amène des témoins ou il dit lui m'a tapé et m'a fait une plaie qui me cause un dommage de tant et tant. C'est une question financière. Donc c'est sûr que cela devrait être traité devant 3 juges. Donc pourquoi avons-nous besoin de répéter cela? Amar Rabbi Abba, ou alors Rabbi Abba dit, Mahen Ktane, la Mishnah vient nous dire, quelles sont les questions financières qui sont traitées devant 3 juges? Mahen Dine Mamonot, quelles sont les questions financières? Gzelot Vechavalot, les vols et les plaies. Aval, Odahot Vealvot, mais les aveux qu'un homme doit de l'argent à son ami. Si par exemple quelqu'un a avoué devoir de l'argent à son ami devant des témoins, ou les questions de prêt, l'eau, ça n'a pas besoin d'être traité devant 3 juges. Et nous allons expliquer dans la Gemara un peu plus loin pourquoi. Et la Gemara nous dit, Vetzricha, et nous avons besoin de mentionner les deux cas dans la Mishnah. C'est-à-dire que, si c'est ainsi, qu'il n'y a que les questions de vol et de plaie qui sont traitées devant 3 juges. Alors pourquoi avons-nous besoin de dire les questions financières qui sont les vols et les plaies? Il suffit de dire que, ou les questions financières, ou les vols et les plaies. Alors la Gemara nous dit, on a besoin des deux choses. Pourquoi? Dès qu'un édine mamonot, car si on avait enseigné seulement les questions financières, hava minada filo daot valvot, j'aurais pu penser que même les aveux qu'une personne doit de l'argent à son ami, ou les prêts, alors c'est inclus dans ces questions financières. C'est pour cela que tanek zelot vechavlot. C'est pour ça qu'on a expliqué quelles sont les questions financières qui sont traitées devant 3 juges. C'est les vols et les plaies. Veit tanek zelot vechavlot. Et si on avait enseigné dans la Mishnah seulement le cas des vols et des plaies, veloktan edine mamonot, et qu'on n'avait pas enseigné les questions financières, havamina, j'aurais pu penser, ou adin d'afilo daot valvot, il en est de même pour les aveux et les prêts, qu'ils sont traités devant 3 juges. Veidektanek zelot vechavalot, et la raison pour laquelle on a mentionné dans la Mishnah les vols et les plaies, mishum deikar shalosh diktive, car l'endroit où principalement il est écrit que l'on a besoin de 3 juges, bekzelot vechavalot, c'est à propos des vols et des plaies. Ktive, que c'est écrit. Gzelot, dirtiv, à propos des vols, comme il est écrit, venikrav balabait el Elohim. Et le maître de maison, c'est-à-dire celui qui avait en garde l'objet, car là-bas nous parlons d'un cas où un objet est en garde chez une autre personne, devra, et que cet objet a été volé. Et donc, il devra venir au tribunal. Et dans ces versets-là, il est mentionné 3 fois le mot Elohim, tribunal. Et de là, nous apprenons que le tribunal doit être composé d'au moins 3 juges. Donc ça, c'est à propos des vols. Et chavalot, les plaies, mali chaval begufo, mali chaval bemamono, quelle différence s'il lui a causé un dommage dans son corps ou un dommage dans son argent? C'est-à-dire les vols, c'est un dommage dans l'argent, et les plaies, c'est un dommage dans le corps. Quelle différence y a-t-il entre les dommages? Donc dans ces deux choses-là, alors c'est écrit principalement qu'il y a besoin de 3 juges. Et donc j'aurais pu penser que c'est pour cela que dans la Mishnah il n'est mentionné que le cas des vols et des plaies. Mais il en est de même aussi avec les aveux et les prêts. C'est pour cela que Tana Mahen Dine Mamonot Zelot Vechavalot. C'est pour cela qu'on a enseigné qu'on parle des questions financières. Et quelles sont les questions financières qui sont jugées devant 3 juges? C'est les vols et les plaies. Abalodaot Velvot Lo. Mais les aveux et les prêts, non. On me demande où les mailles. Et pourquoi on n'a pas besoin de 3? Il m'a délobainan slosha. Si ça veut dire que l'on n'a pas besoin de 3 juges du tout, c'est-à-dire il suffit de 2 juges. Ve'ama Rabbi Abbaou, pourtant Rabbi Abbaou a dit, shnaim shedanu, lorsque 2 personnes ont jugé, dîner mamonot, un jugement ayant trait à une question financière, les divrei akol, d'après tout le monde, en dîner en din, le jugement qu'ils ont rendu n'a pas de valeur. Et là, de lo bainan mumprim. Alors, en fait, qu'est-ce que ça veut dire qu'on n'a pas besoin de 3? C'est pas qu'on n'a pas besoin de 3 personnes. C'est sûr qu'on a besoin de 3 personnes. Mais on n'a pas besoin de mumprim, c'est-à-dire des juges spécialisés qui ont été nommés par le prince d'Israël, par le Nassi. On n'a pas besoin de 3 comme ça. Il suffit de 3 talmidei chachamim, 3 sages. Et on n'a pas besoin qu'ils ont été nommés en tant que juges par le Nassi. Alors, la Gemara demande, Maïka Savar, que ce Tana pense-t-il? Ce Tana qui nous dit que, à propos des aveux et des prêts, on n'a pas besoin de 3 juges qui ont été nommés par le prince. Ikasavar Eruv Parashiot Katuv Kahan, si il pense que les versets ont été mélangés ici, c'est-à-dire que dans la parashat Mishpatim, c'est la parasha où il est écrit le verset que nous avons rapporté plus haut, qu'on devra s'approcher des juges. Et apparemment, il est très possible, là-bas les versets, il y a plusieurs sujets qui sont traités, et apparemment il est possible de dire que les versets ont été mélangés, les sujets entre eux. Et donc, de là nous apprenons que toutes les lois s'appliquent sur tous les sujets qui sont mentionnés là-bas. Alors maintenant, si c'est ainsi, alors les Ba'enamimamchim, qu'on ait besoin aussi de juges spécialisés, car étant donné que les questions de prêt sont aussi mentionnées dans les versets là-bas, et que ce verset aussi, d'après celui qui dit que les versets ont été mélangés, alors ces versets aussi font partie des versets qui sont mélangés, alors même dans les questions de prêt, on a besoin de 3 juges spécialisés qui ont été nommés par le prince. Veikasavar en iruv parashot katuvkan. Et si ce Tana pense que les versets n'ont pas été mélangés, et donc ce qui est dit à propos de tel sujet s'applique seulement à tel sujet, donc shlosha lamali. Alors pourquoi avons-nous besoin de 3 juges? Lorsqu'il est dit 3 juges, c'est seulement à propos des vols et pas à propos des prêts, bien que les prêts sont mentionnés dans le sujet qui suit, dans les psukim, dans les versets de Mishpatim, mais il n'y a pas un mélange de versets, et donc nous ne pouvons apprendre que les prêts ont besoin de 3 juges. Donc pourquoi avons-nous besoin de 3 juges? Il est amplement suffisant de 2 juges. Alors la Gemara répond, le Olam Kasavar, il rouvre Parashot Katufkan. Il faut dire qu'en fait, il pense que les versets ont été mélangés. Et Ubedinu Delibay Namimukrim. Et donc d'après la loi, en effet, on aurait eu besoin de 3 juges spécialisés. Et la raison pour laquelle on n'a pas besoin de 3 juges spécialisés qui ont été nommés par le prince d'Israël, Mishum de Rabbi Hanina, c'est à cause de l'enseignement de Rabbi Hanina. D'Ama Rabbi Hanina, car Rabbi Hanina a dit, Devar Torah, d'après la Torah, Echad dine mamonot ve echad dine nefashot. Que ce soit les jugements sur des questions financières ou les jugements sur des questions de peine de mort, Bedrisha ou Bechakira. Lorsque les témoins viennent, on leur pose des questions et on leur demande des explications. C'est-à-dire qu'on a le droit de leur poser des questions, même sur les plus petits détails de ce qui s'est passé là-bas.
Nous espérons que ce cours a été apprécié. Retrouvez sur le site torah-box.com gratuitement un cours sur chaque page du Talmud, ainsi que le Daf Hayomi, quotidiennement en vidéo.